RFI, 9h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. L'heure de retrouver Arthur Ponchelet pour le journal.
Et à la une ce matin, y aura-t-il autant de monde que l'été dernier dans les rues d'Abuja? Aujourd'hui, journée de manifestation dans tout le Nigeria pour dénoncer les difficultés économiques et sécuritaires. Ghislain Dugarry, assis, conteste toujours les faits qui lui sont reprochés. Ce syndicaliste, l'un des leaders de la grève de l'enseignement public en Côte d'Ivoire il y a 2 mois, comparaissait en appel hier. Dans ce journal aussi, les paramilitaires soudanais, appuyés par le maréchal Haftar, homme fort de l'est de la Libye, c'est ce que nous dira un chercheur. On peut les acheter pour quelques ariards dans les rues de Madagascar. Les pointeurs laser pullulent sur la grande île. Et vous l'entendrez, ce n'est pas sans danger. Ils éblouissent les pilotes d'avions. Et puis les sports, juste après ce journal. On revient sur la victoire du Sénégal contre l'Angleterre. C'était il y a 2 jours, mais on ne s'en lasse pas sur RFI. Take it back, reprendre la main. Tel est le mot d'ordre lancé aujourd'hui au Nigeria, journée nationale de manifestation pour protester contre les difficultés économiques et sécuritaires. Et le mouvement Take it back n'a pas choisi ce 12 juin au hasard, car il y a 32 ans, jour pour jour, Moshood Abiola, le mentor du président Tinubu, s'était fait, je cite, voler son élection. 32 ans plus tard, donc, Moïse Gomis, le chef de l'État, fait face à une nouvelle fronde de ses opposants.
Alors que les manifestations de l'été dernier n'avaient pas de leader, Juwon Sanyaolu assume. Il est le visage et la voix de Take It Back Movement, ce mouvement de contestation ayant choisi ce 12 juin pour lancer un défi au président Bola Ahmed Tinubu. Juwon Sanyaolu exhorte les Nigérians à sortir en masse pour, je cite, reconquérir l'âme du pays et demander des comptes à ceux qui sont au pouvoir, fin de citation. Des métropoles comme Lagos, Benin City au sud, mais aussi Maïdougouri, Yola au nord devraient voir converger des cortèges du mouvement signifiant en français reprendre en main. À Abuja, la capitale fédérale, les manifestants devraient se retrouver aux abords d'Eagle Square, l'esplanade où tous les présidents élus prêtent serment le jour de leur investiture. Si la parade prévue sur ce lieu chaque 12 juin n'aura pas lieu cette année, en revanche, le président Bola Ahmed Tinubu prononcera bien son discours à la nation, avant de rejoindre un peu plus tard dans la matinée une session conjointe au Sénat et à la Chambre des représentants. Puis en fin d'après-midi, le chef d'État devrait assister à une conférence intitulée « Consolider les acquis de la démocratie nigériane, nécessité de réformes durables ». Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Le chef de la transition au Mali, reconduit pour un mandat de 5 ans, le Conseil des ministres a donné son feu vert et validé la réforme de la charte de la transition. Transition que le texte entend poursuivre pour, je cite, parvenir à la pacification totale de l'Alliance des États du Sahel. L'actualité au Mali, c'est aussi cette enquête de Forbidden Stories qui révèle les tortures subies par des civils dans les prisons secrètes de Wagner. Le consortium international de journalistes documente l'existence d'au moins 6 camps militaires maliens utilisés par les paramilitaires russes. Des cas de simulation de noyades, de coups de bâton et de câbles électriques y sont décrits. On vous raconte tout sur RFI.fr. C'était il y a 2 mois, certaines écoles publiques de Côte d'Ivoire étaient paralysées. La faute à un mouvement de grève des professeurs. L'un d'entre eux, un syndicaliste, a été condamné à 2 ans de prison ferme en avril dernier, condamné pour coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public. Il comparaissait en appel hier, compte rendu d'audience, signé Bintadiane.
À la barre, Ghislain Dugarry, assis, n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. C'est une contradiction, dénonce d'emblée l'avocat général. Selon le parquet, au moment de l'enquête, ce leader syndicaliste aurait signé un procès-verbal dans lequel il aurait reconnu une infraction, celle de coalition d'agents publics. L'enseignant a par ailleurs contesté les conditions de son arrestation survenue à son domicile dans la nuit du 2 au 3 avril 2025. Il n'y a pas de mandat d'arrêt ni de procès-verbal de perquisition, relève un de ses avocats. Son arrestation s'est produite en dehors du cadre légal, estime maître Paul Léon Botto. Le cœur du procès concerne les conditions d'exercice du droit syndical. Il n'est pas permis d'exercer le droit syndical un jour ouvrable, lance la juge. La loi nous dit que nous avons 15 heures chaque mois pour exercer ce droit et nous sommes payés pour cela, répond Ghislain Dugarry assis sur cette lancée. Son avocat rappelle que la grève est un droit garanti par l'article 17 de la Constitution. Bintadiane Abidjan, RFI.
Fin de la grève des enseignants au Niger. Un accord a été trouvé entre gouvernement et syndicats. D'après le communiqué signé en début de semaine par les deux parties, l'exécutif a levé le gel du recrutement et la compensation des arriérés par l'attribution de parcelles. Suite des négociations de paix entre la RDC et le Rwanda, des délégués des deux pays sont attendus cette semaine à Washington. Ils doivent travailler sur un deuxième projet d'accord qui fixe certaines conditions préalables à la signature, comme le retrait du Rwanda, du territoire de son voisin. Le texte aborde aussi la question des FDLR. On vous raconte les détails de ce document que RFI a pu consulter sur RFI.fr. C'est une victoire présentée comme stratégique et décisive par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Au Soudan, les hommes du général Emeti ont pris le triangle frontalier avec l'Égypte et la Libye. L'armée régulière annonce s'être retirée de cette zone après de violents combats contre les FSR des paramilitaires qui n'ont vraisemblablement pas agi seuls. Ils auraient été aidés par le maréchal Haftar, homme fort de l'est de la Libye. C'est en tout cas ce que dit l'armée soudanaise et le chercheur soudanais Majdi El Ghizouli. Pour lui, le bataillon libyen Katiba Sobol Al-Salam a activement préparé au combat.
La nouveauté, c'est qu'il s'agit d'un bataillon de troupes libyennes qui a lancé l'attaque par le nord alors que les paramilitaires, eux, sont arrivés par le sud. C'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre cette position de l'armée soudanaise. Il y a toujours eu des mercenaires libyens qui travaillaient avec les paramilitaires soudanais, des officiers, des techniciens qui savent opérer des drones. Mais là, c'est un bataillon de combattants qui a participé à l'opération, un bataillon loyal à Khalifa Haftar et qui est habituellement impliqué dans le trafic d'armes et de carburant. Car vous ne pouvez pas vous battre au Darfour sans avoir une chaîne d'approvisionnement en carburant. Celui-ci vient principalement de Libye. Le problème des FSR, c'est de pouvoir tenir tous les différents fronts. Ils veulent maintenir le siège d'El Fasher et pour cela, ils doivent maintenir une chaîne d'approvisionnement. Ils combattent également au Kordofan où ils font face à plusieurs offensives de l'armée et ils n'ont pas assez d'hommes pour tous ces fronts et pas assez de temps pour former de nouvelles recrues, d'où l'utilisation de ce bataillon libyen.
Propos recueillis par Alexandra Branjon et noté que dans un communiqué, le ministère des affaires étrangères du gouvernement loyal au maréchal Haftar nie toute implication dans l'attaque. Au Kenya, le chef de la police demande pardon devant les sénateurs. Il était auditionné dans l'affaire Albert Ojwang, ce jeune homme de 31 ans arrêté pour des tweets et retrouvé mort dans sa cellule. Les policiers avaient d'abord dit qu'il s'était suicidé en se cognant la tête, mais l'autopsie est formelle, il a été agressé. Le Kenya, c'est aussi la présentation du budget, aujourd'hui par le gouvernement. Souvenez-vous, le projet de loi de finances avait suscité la colère l'an dernier avec des rassemblements réprimés dans le sang. William Ruto avait finalement retiré le texte. Un mot du Burundi, où la CENI a dévoilé les résultats provisoires des élections législatives. 96% pour le parti au pouvoir et 100 sièges remportés. Des élections truquées, dit l'opposition. On a tué la démocratie, réagit ce matin l'opposant Olivier Nkurunziza. Il est 7h38 en temps universel. On vous emmène à présent dans l'un des plus grand salon consacré aux nouvelles technologies. Ça s'appelle VivaTech, ça se passe à Paris et les pays africains y sont bien représentés. Pour la première fois, la Guinée est sur place avec une petite dizaine de start-up. Un écosystème balbutiant, Alexis Bédu, mais aux grandes ambitions.
Une vitrine de la Guinée à VivaTech. Lansana Keita est venu de Nzérékoré à l'est du pays.
Et là, vous tapez sur internet zalimerveille.org.
Son Zali Merveille est une plateforme qui permet de créer des circuits touristiques en Guinée, de faire des réservations. Une application est en cours de développement.
Vous savez, dans le temps, la Guinée n'avait pas une très belle image, alors qu'on a une potentialité touristique qu'il faut mettre en valeur. Quand on voit les visiteurs s'intéresser à ce que nous faisons, on sent qu'on a du potentiel, mais on manque de coups de pouce.
Le programme Simandou 2040, porté par le gouvernement, place le numérique comme moteur essentiel pour la croissance du pays. Rose Paula Prissemou est ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique.
Il y a une dynamique qui s'est installée pour promouvoir ces start-up-là. Et quand on parle de promouvoir les start-up, il ne s'agit pas seulement de leur dire « Ah, venez !» Il faut créer des mesures d'accompagnement.
Votre présence à VivaTech, ça veut dire beaucoup ?
Absolument. C'est pour donner un ton et dire qu'il y a un changement. Nous voulons savoir ce qui se fait de mieux ailleurs et la Guinée est ouverte à discuter.
Révision du programme académique, soutien financier aux jeunes pousses de la tech, création d'un technopôle à Conakry avec data center, centre de formation et salle de conférence, des mesures pour avancer et surtout rattraper l'important retard du pays dans les nouvelles technologies.
Alexis Bédu, VivaTech, c'est jusqu'à samedi et les acteurs du secteur ont à nouveau rendez-vous, mais cette fois en Côte d'Ivoire. Le ministre de la transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, a annoncé la création d'Ivoire Tech, un salon qui doit se tenir à partir du 9 juillet prochain. En attendant, on termine ce journal à Madagascar. Peut-être les avez-vous aperçus à la tombée de la nuit, d'étranges lumières vertes pullulent dans le ciel malgache. C'est le nouveau gadget à la mode. À quelques jours de la fête nationale, les pointeurs laser. On en trouve un peu partout dans les rues et leur effet peut être dévastateur, notamment pour les voitures et les avions. Sarah Teto, plusieurs pilotes ont ainsi été éblouis ces derniers jours.
Éblouis par des dizaines de lasers braqués sur leur appareil, plusieurs pilotes et leur compagnie ont alerté l'aviation civile malgache du problème de sécurité que ces petits objets, vendus quelques dizaines derrière sur les trottoirs, pouvaient causer. C'est pire que les années précédentes, confie un commandant de bord. Lors de l'approche de la piste d'atterrissage, les pilotes doivent en effet effectuer un circuit visuel extérieur-intérieur pour garder une trajectoire bien précise. Désormais, ils doivent aussi éviter de croiser du regard ces lasers aveuglants. Une nouvelle menace à gérer donc, que le ministre des Transports, Valérie Ramonzaveilo, dit prendre très au sérieux.
Face aux attaques de pointeurs laser dans l'aviation, mais également aussi sur les routes, le gouvernement va prendre des mesures sur ce sujet.
L'urgence, explique le ministre, c'est d'abord de sensibiliser les utilisateurs de ces lasers, souvent bien inconscients des dangers qu'ils peuvent causer. Ensuite,
nous allons proposer donc un arrêté interministériel qui va concerner aussi bien pour éviter les importations, pour dire que ça a des répercussions sur la santé. Ça a toujours été plus ou moins accepté, mais maintenant donc on va prohiber tout ça. Voilà. On voudrait faire ça dans les meilleurs délais. L'objectif, c'est qu'on puisse sauver des vies et qu'on puisse éviter des accidents.
Interdire l'importation, sans doute le nerf de la guerre. Madagascar a interdit il y a 10 ans l'usage et la vente de pétards, mais en l'absence d'interdiction d'importation prononcée, les petits explosifs continuent chaque année à proliférer sur les marchés à l'approche de la fête nationale. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Un mot de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Vous le savez, ça se passe à Nice et vous le suivez sur RFI, sur notre site. Vous pouvez lire un entretien exclusif du président du Costa Rica qui co-préside cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Il se félicite de la ratification du traité sur la haute mer et rejette l'exploitation minière des fonds marins. Rendez-vous donc sur notre site. Vous connaissez l'adresse www.rfi.fr pour lire cet entretien exclusif.
Merci Arthur Ponchelet, belle journée à vous.